Bon, c'est la première ronde des collabos pour cette année 2025. Olivier Brett, comment vas-tu? Bonne année 2025.
Bonne année, Zizou.
Bonne année, ça va super bien.
Oui?
Ça va bien depuis hier, parce que moi, je trouve que Georges a fait une erreur en réduisant de 3 à 2 son pari avec toi.
Pourquoi venant de la part d'Oli, ça a beaucoup de poids, je trouve, ce commentaire. Merci, Oli.
C'est David Tando qui disait, là, c'est encourageant, je vais pas m'enflammer. Georges, je pense que tu t'es enflammé. Puis tu sais à quel point, avant Noël, je disais que Gonzo était complètement dans le champ d'avoir accepté ce pari-là. Moi, je pense que tu joues avec le feu un peu. Là.
À deux?
T'as voulu... Mettons, en faisant ça, tu t'es laissé aller un peu, là. T'entends? T'étais pas obligé.
T'as voulu garder ça le fun.
Il reste 40 matchs. Il faut qu'ils descendent deux fois. Mm-hmm. Ils sont pas proches du bottom.
Ben, ils sont pas proches parce que t'es sur une bulle, là.
Exact.
En 2008, là, t'étais pas proche du bottom, puis finalement, tout le monde a perdu sa maison aux États-Unis.
Ils vont peut-être faire 2-8 au prochain 10 matchs, là.
Moi, en tout cas, ça me dérange pas.
T'es confiant.
Ça me dérange pas de parler à deux pessimistes du CH, là. Ça me dérange
non,
pas.
Mais c'est...
Moi, je vous dis, les gars, que ça arrivera pas une fois.
On va dire une chose.
Pessimiste. Moi, je suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que tes 10 derniers matchs, c'est pas la vraie vie.
Ça arrivera même pas une fois.
Descends à 1.
Non. J'ai déjà descendu 3 à 2.
Hey, puis les gars, vous avez fait ma journée en parlant de sumo et de Yokozuna tout à l'heure.
Tu te rappelles ça de Lex Luger et Yokozuna?
Voyons, Lex Luger, c'est le seul à l'avoir levé?
Ben, c'est le seul finalement. Oui, merci à beaucoup d'auditeurs. J'étais sûr que. Puis là, tout le monde me disait, ben non, c'était André le Géant. Je m'en rappelais d'André le Géant, bien sûr. C'est un classique, ça, là. André le Géant avec Hulk Hogan. Ben, dans ma tête, je pensais que Hogan l'avait levé. Mais finalement, dans le match où il l'a piné, il l'a pas levé. C'était Lex Luger sur la base militaire là, pour un 4 juillet.
Es-tu fier? Ou tu te remets un peu en question quand ça fait la file sur une base militaire pour juste voir si on est capable de te lever de terre?
Je sais pas. Hein?
Tu repasses ta vie en... En même temps, Yokozuna a bien gagné sa vie avec la lutte. Là. Avoir eu des cheveux, j'aurais pas pu être sumo non plus.
Ouais.
il est décédé, Yokozuna. Hein?
Je te dirais que des lutteurs de ces années-là...
À ce point-là aussi, je pense pas que tu te rends 100 ans.
T'as raison. On va avoir la réponse en pas long.
Gonzo, les sumos, là, il y a une moyenne de
vie. Oui, c'est ça. Il est mort à 34 ans. Je me rappelais pas à quelle heure. Il est 34 ans. Il est mort le 23 octobre 2000.
À un moment donné...
Parce que je te confirme qu'on l'aurait vu passer sur un podcast dans les 6 derniers mois, parce que c'est pas mal ce qui se passe en ce moment avec des lutteurs des années 90. T'es voix faire le tour, pas à peu près.
Ali, qu'est-ce que tu penses jusqu'à maintenant des transactions du CF jusqu'à maintenant?
Je vais faire un David Détégui de moi-même. Je trouve que c'est...
Encourageant.
Je vais pas m'enflammer puis je vais pas prendre des paris avec Georges, je vous confirme. Avec personne, en fait, mais ça bouge et ça bouge relativement rapidement parce que entre Noël et le jour de l'an, tu as trouvé ton nouveau staff. Après ça, tu es allé chercher deux joueurs en début de semaine.
Mais il faut, ça avance vite, là.
Oui, tu as raison. Mais l'an dernier, celui qui t'a sauvé les fesses en fin d'année, tu es allé le chercher quand? Joseph Martinez. Il est arrivé tard dans la première, si c'est pas la deuxième semaine de février. Donc, tu sais, le feu n'est pas pogné. Mais tu as tellement de recrutement à faire parce qu'il y a quoi? Il y a 14 joueurs au total qui ont vu leur option pas exercer ou qui étaient sans contrat à la fin de la saison dernière. C'est pas la fin du monde non plus parce que la Révolution de la Nouvelle-Angleterre, avec qui le CF Montréal a fait une transaction d'ailleurs, on est allé chercher le joueur désigné Giacomo Vrioni, mais eux, ils ont clairé presque 20 gars. Moi, ce qui m'encourage, c'est que tu as rapidement commencé à recruter avec des profils qui sont variés. Parce que vous savez, je vous le répète depuis longtemps, moi, j'y crois à cette idée-là d'avoir des jeunes que tu formes, que tu développes et que tu essaies de rendre des incontournables dans ton équipe ou que tu vends. Mais pour ça, il faut que tu aies un éventail de profils qui n'est pas résumé à « on veut juste des jeunes puis on espère que ça fonctionne ». Là, tu es allé chercher Jalen Neal qui est un défenseur. Écoute, on ne révolutionne rien, mais c'est un défenseur qui a du ballon. Il arrive du LA Galaxy, champion en titre de MLS Cup. Je pense que c'est intéressant. Ensuite, tu vas chercher un milieu de terrain qui est relativement polyvalent. Un gars qui a joué à Philadelphie, qui a joué à Chicago, Fabian Herbes, qui est en MLS depuis près de 10 ans, qui a 31 ans. Là, je trouve ça intéressant parce que c'est un gars, tu ne vas pas dire que c'est un de tes patrons de l'équipe tout de suite en partant. On ne l'a jamais vu jouer à Montréal.
C'est un vétéran.
Exactement. Tu sais qu'il va pouvoir encadrer. Puis là, tu as l'entre-deux. Ça, c'est Vrioni. ton attaquant avec l'étiquette de joueur désigné. Est-ce que c'est un joueur désigné à la Lionel Messi? Non, mais c'est un joueur désigné. Puis cette étiquette-là, on s'en parlait avant les fêtes, pour le marketing, la communication, pour la perception qu'on a de l'équipe, c'est important à Montréal, même si tu n'en auras jamais quatre.
Mais pour toi, c'est encourageant, Brioni, là, pour les gens qui, qui écoutent, mettons, puis qui se disent « OK,
moi, je trouve que c'est un pari, c'est un pari qui vaut tellement la peine. » Un, il a 26 ans. Deux, c'est sa troisième saison complète, quatrième au total en MLS. Donc, il connaît le championnat. C'est un gars qui est passé par la Juve. C'est un international albanais, mais qui est italien à la base. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est la nature de ce deal-là. Souvenez-vous, quand Caden Clark est débarqué l'année passée, on s'est dit, le Minnesota United, écoute, c'est juste s'ils n'ont pas payé pour son billet d'avion pour qu'il s'en vienne à Montréal. C'était 50 000 $ en argent d'allocation. Des peanuts. Finalement, Caden Clark a été super sur la fin de campagne. Là, il demande, le Révolution demande 50 000 $ en argent d'allocation. C'est des peanuts encore. Mais, de son salaire qui était 2 millions l'an prochain, on verra cette année c'est quoi, mais ils gardent une portion. Tout ça te dit, ils ont juste hâte qu'ils dégagent de la Nouvelle-Angleterre. C'est pas, sur papier, super positif pour le CF Montréal. Mais après, il y a la dernière portion de ce deal-là qui est, ouais, mais avec tout ça, la Révolution de la Nouvelle-Angleterre se garde un pourcentage d'une revente potentielle. Moi, ça vire tout ce dossier-là sur la tête. Ça veut dire qu'ils savent très bien qu'après avoir marqué 9 buts, qui était son meilleur total l'an dernier depuis son arrivée en MLS, ça se peut que ça explose. C'est juste que c'était plus un bon fit pour la Nouvelle-Angleterre. Je trouve ça intéressant. Ça arrête pas ton recrutement. C'est pas la fin, mais je trouve ça vraiment intéressant.
Maintenant, le nouveau staff pour Courtois. Est-ce que ça aussi, c'est encourageant pour la manière qui est entouré, là, le chanteur de Nickelback qui revient à Montréal comme ça? C'est incroyable.
Oh boy, tu prendrais qui en entrevue, Marco Donadel ou chanteur de Nickelback?
Moi, je sais pas. Chad Kroger est quand même divertissant, mais j'ai jamais été un grand fan du band. Là, fait que,
c'est du juste band, que du gars, il était pas vraiment compliqué à avoir en entrevue.
Non, c'est des gars sympathiques de l'Alberta qui sont des bons vivants quand même, qui sont juste.
Hey, je peux te conter une anecdote? Moi, j'ai un gars avec qui j'ai joué à l'université McGill. Puis c'est un gars de l'Ouest. Puis il est dans un bar à quelque part, je pense que c'était à Vancouver. Il est aux urinoirs. Il est chaud. Là, il regarde à côté et il dit « Hey, man! » Puis le gars, il dit « What? You really look like the singer from Nickelback. » Puis il continue, il fait ses affaires. Le lendemain, il se rend compte que...
C'était lui.
Ben, c'était Chad Kroger. C'était le chanteur de Nickelback qui était à côté de lui. Bref.
Je sais pas combien de fois Donadel l'a eu, celle-là,
pour revenir, un peu moins grand, par exemple. Mais justement, Marco Donadel... Marco Donadel et Benvenuto... le coach des gardiens qui arrive de Bologne, ça, c'est l'empreinte CF Montréal. Après, les deux gars, Kobe Johnson puis Jérémy Taillandier, qui arrivent de MLS+. Plus Taillandier, c'est un Français qui était à Chicago, qui a des liens avec Laurent Courtois. Puis Kobe Johnson, qui a coaché, lui, avec Laurent Courtois à Columbus, ben c'est l'empreinte de Courtois. Je trouve ça intéressant que ce soit un genre de l'extérieur, 50-50. Tu choisis deux gars, c'est ce que ça donne comme impression, puis on en choisit deux. Là où ça devient complexe, les gars, c'est Marco Donadel était sur la liste de candidats potentiels du CF Montréal quand ils ont décidé d'y aller avec Laurent Courtois. Celui qui était là quand on est allé avec Laurent Courtois, c'est Olivier Renard, qui n'est plus là. Là, tu te mets dans la position de Laurent Courtois, puis peut-être que tout fonctionne, tout est clair, que Donadel dit « Hey, moi, là, je veux juste que ce soit bien clair, je veux pas prendre ta job, mais je suis très heureux. » Peut-être. Mais de l'extérieur, seriez-vous ultra confortable à la place de Laurent Courtois?
C'est pas son choix. Ça doit pas être son choix.
Mais en même temps, est-ce que tu peux imposer ça? Si t'imposes ça, ça envoie un message de précarité monstre à Courtois. Donc là, j'ai très hâte de voir... Qui va prendre le lead de donner l'autorité à tout le monde? L'autorité du coach, l'autorité comme adjointe en a besoin aussi, mais il faut que tu respectes celle de ton boss. Puis ton boss, quand t'es Marco Donadel ou n'importe quel autre membre du staff, c'est pas Gabriel Gervais, c'est pas Luca, Simone Saputo, Corey Ray ou même la très haute direction, les propriétaires. C'est Laurent Courtois. Ben ouais, c'est Courtois. Ça, j'ai hâte de voir comment ça va opérer.
De quoi tu t'attends quand Gabriel Gervais demain s'adresse aux médias?
Ben justement, un peu de ça. Ça va fonctionner comment? J'ai hâte de l'entendre parce que je présume que la question va lui être posée là, sur Marco Donadel. Tu l'amènes. Est-ce que ça affaiblit. Tu sais, je veux pas être négatif, là, mais ça rend la dynamique quand même particulière. Puis j'ai hâte de voir le ton. Pour moi, là, la saison commence demain. Je comprends qu'on a commencé à recruter entre Noël puis le jour de l'an. Je comprends qu'on a fait des annonces cette semaine. Mais là, c'est vraiment le message. Il va y avoir, quand l'équipe va revenir, un lancement de saison officiel, je présume, avec les détenteurs de billets de saison. Puis ça, c'est toujours bon. Mais d'habitude, la saison est soit déjà lancée ou tu sens que ça s'est mis en marche. Là, c'est le message. On s'en va vers quoi? C'est quoi qu'on envoie comme vibe aux gens qui se disent « OK, vous êtes en train de travailler, mais ça va ressembler à quoi la mouture 2025? » Parce qu'il y a trois personnes qui vont avoir, je pense, un poids monstre pour donner ce ton-là cette année. Ce ne sera pas une surprise, mais c'est ceux dont la parole pèse le plus. Gabriel Gervais, qui va parler en premier. Ensuite, c'est ton capitaine Samuel Piette et Laurent Courtois. Ces trois-là, là, pour montrer que, hey, un peu comme on l'a fait à pareille date l'an dernier, tout le monde était excité. Là. À pareille date l'an dernier, oui. Le 8 janvier, Laurent Courtois venait d'être nommé, puis là, tout d'un coup, il y avait un vent d'enthousiasme. Là, t'as pas ce nouveau coach qui arrive, donc on s'accroche à quoi? Moi, c'est ça que j'ai hâte d'entendre demain comme message de Gabriel Gervais.
Bon, MLS, Neymar à Miami.
Mais boy.
C'est-tu vrai, ça?
C'est vrai. C'est, ben, quand le propriétaire de Miami lui-même dit ouais. qu'on est ouvert à explorer...
Ça
pis,
se fait?
Ben, écoute, qu'est-ce qui est un plus long, un plus gros stretch? Messi, quand l'Arabie Saoudite court après, qui décide de s'en venir jouer en MLS, ou Neymar, qui est en Arabie Saoudite, qui a ramassé le pactole, qui s'est fait une déchirure au ligament croisé, qui est en fin de contrat en juin et qui pourrait s'en venir jouer avec ses anciens chums, Messi et Suarez, ça, c'était la fameuse MSN qui était au Barça. Et ça, c'est juste d'une perspective Neymar, d'une perspective Messi et compagnie, évidemment. Mais là, il y a aussi tout ce que ça représente pour la MLS et le soccer en Amérique du Nord. Tu as la Coupe du monde des clubs qui s'en vient cet été. Imagine si tu arrives à regrouper Neymar, Messi, Suarez, parce que c'est Miami qui représente ouais. la MLS à la Coupe du monde des clubs qui a lieu où? En Amérique du Nord, aux États-Unis. Ça, c'est un an avant la Coupe du monde à proprement dit, qui a lieu où? Oui, au Canada et au Mexique, mais aux États-Unis aussi, c'est monstre. Et l'autre élément qu'il ne faut pas négliger, puis ça, c'est la partie MLS, c'est, moi, je pense que ça donnerait la perception que la MLS, pour le moment, a gagné sa bataille avec le championnat saoudien. Parce que souvenez-vous, quand Messi est débarqué, là, il y a un an et demi, c'était ça la grosse conversation, parce que l'Arabie Saoudite garochait du cash à tout vent, Ronaldo était débarqué là-bas, Messi était courtisé, puis il y a un paquet de joueurs qui avaient encore plusieurs bonnes années de carrière en Europe, qui avaient décidé de s'en aller en Arabie Saoudite, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas du tout prêts à s'en venir en MLS. Là, je pense que dans la perception des gens, tu dirais, OK, l'attention vient complètement de revenir sur la MLS, puis ça, je le répète, à l'approche de la Coupe du monde en 2026, c'est un moment idéal.
Quand tu parles d'attention pour la MLS, San Diego, 29e club qui va joindre la MLS, De Bruyne pourrait joindre cette équipe-là en plus.
Hey. Tu sais, il y a 33... Lui, c'est traître d'ailleurs. J'ai été obligé d'aller voir son âge. Ce gars-là a soit 33 ans depuis qu'il en a 21 ou 21 ans depuis toujours. Mais écoute, il y a une baby face, là. C'est incroyable.
Il y a 33?
Il y a 33. Tu sais, je me disais, il y en a peut-être deux ou trois ans de moins. Mais... Là, ça, ce serait intéressant parce que il y a 10 ans, je vous aurais dit « Fais attention. » Moi, j'aurais pas trippé à l'idée d'avoir un gars comme ça pour une raison bien simple, c'est que c'est un passeur. C'est un gars qui met les autres en valeur. Mais pour mettre les autres en valeur, souvenez-vous, Marco Di Vaio était ici à Montréal. Il faisait des appels extraordinaires. Il y avait tout le temps quoi? Pas un ballon d'un pied, les deux bras dans les airs. Parce qu'il disait, hey, vous la voyez pas, la course que je fais. Il y avait un décalage entre ce que lui cherchait et ce que les autres pouvaient offrir. Là, si Kevin De Bruyne est capable de trouver des attaquants qui font, puis je pense que la MLS est rendue là en 2025, qui comprennent ce que lui cherche à distribuer comme ballon, ben c'est mortel. Il va falloir que tu te mettes à trois au milieu de terrain pour essayer d'arrêter Kevin De Bruyne. Puis pour frapper un coup, c'est un club de l'Ouest, San Diego, recruter un gars qui arrive de Manchester, un Belge en plus, ça montre à quel point la MLS est rendue complètement ailleurs. J'ai vraiment hâte de voir San Diego cette année d'ailleurs.
Ouais, puis tu vas aller chercher une partie du marché californien à Los Angeles aussi. En terminant, Oli, un documentaire intéressant ce soir à Radio-Can.
Ouais,
Radio-Can. Pas le match du Canadien.
Radio-Can, c'est enquête. C'est notre ancien collègue, en fait, Romain Chouet.
Oui.
Qui était ici à l'époque de... Écoute, on s'appelait comment dans ce temps-là?
Radio 9?
C'était pas X, puis c'était pas Radio 9, non, ça, non. Je te confirme. C'était le 91-9. Il a travaillé pendant longtemps avec l'équipe de Radio-Canada et enquête sur un documentaire qui va couvrir, on va appeler ça les coulisses. De Canada Soccer. J'ai vu quelques petits extraits qui ont été partagés sur les médias sociaux dans la foulée de ce qui est arrivé avec les drones, dans la foulée de ce qui est arrivé avec John Herdman, avec la gestion, je sais pas, je présume, des finances aussi depuis la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Comme l'impression que même si les gens sont pas des fans de soccer à proprement dit, l'histoire, l'impression, va révéler quelques éléments intéressants. Son timing, je sais pas si c'était prévu, je sais pas s'il y avait une petite boule de cristal, mais son timing était pas pire quand il a commencé à travailler là-dessus il y a un an et demi. Donc, 21h à Radio-Canada ce soir, documentaire sur Canada Soccer.
Merci, allez, toujours très intéressant.
Je vais aller regarder mes clips de lutte, là.
Des clips de lutte, puis au fond des filets, là, ça sort...
Ah, ça s'en vient, non, le 20. Le 20, on recommence le 20, petite trêve en ce moment. Je vais aller regarder des clips de Bret Hart.
Yes, sir.
Yes, sir. Yokozuna.